Maroc, Nivra Donc, monde a été créé avec 10 paroles, comme on dit dans Kéavot, mais de toute manière, le Mamar Echad, Yachol, il aurait pu être créé par une seule parole. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est créé avec 10? L'iten sapar tov, l'atzadikim, c'est pour donner un bon salaire aux tzadikim qui font tenir le monde qui a été créé avec 10 paroles. Et voilà, ça c'est la Mishnah dans le Kirkavot. Alors le Kohat Yitzhak demande, il dit en fait, cette Mishnah, elle n'est pas vraiment compréhensible. Le Maharal avait déjà posé la question, la fameuse question de quelle différence y a-t-il, sous-entendu, il n'y en a pas, entre celui qui vole un dinar et celui qui vole 10 dinars, celui qui vole 1 euro, celui qui vole 10 euros. Le vol, c'est du vol. Finalement, la différence n'est que quantitative, elle n'est pas qualitative. Et le Maharal a répondu à la question qu'il a posée, donc, de la manière suivante. Il a dit, Nehi de Ein Efresh, Ben Gonev Dinar Echad, Ben Gonev Asara Dinarim. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence qualitative entre le vol d'un et le vol de 10 dinars. Abad Bevadal, Yeshefresh ben Gonev Sela, le Gonev Keter Amalech. Il y a bien une différence entre celui qui vole un dinar et celui qui vole la couronne du roi. Le Paradis Yitzhak dit, ce que veut dire ici le Maharal, c'est que, étant donné que le monde a été créé en 10 paroles, alors, celui qui ne respecte pas le monde, qui ne fait pas tenir le monde en question, alors il vole la couronne du roi. Bon, ça c'est ce que dit Maharal. Alors le Paradis Yitzhak dit, c'est vrai que, bon, ce qu'il a dit, mais c'est un dvarim. Et on n'a toujours pas plus compris. Avec l'explication du Maharal, on n'est pas plus avancé. J'ai pas mieux compris l'explication du Maharal que la Mishnah elle-même. Et il dit, si en fait le Maharal fait référence à des questions mystiques, quoi, d'Istaroth, bon, alors ça ne nous concerne pas. Mais néanmoins, on peut quand même essayer de comprendre un peu, sans entrer dans la profondeur de ce qu'a dit Maharal. Et il dit la chose suivante. Il est clair que le chidouche qu'il y a eu au moment de Matan Torah, dans le Tochen HaKlali shel Avodat Hashem, איננו בזה שמספר הציוויים נתרבה משבע לתרי"ג. Il est clair que ce qui s'est passé à Matan Torah, ça on l'a souvent dit, ça n'a pas consisté à faire en sorte que on passe de 7 mitzvot, les 7 mitzvot des Bnei Noach, à 613 mitzvot. C'est pas un problème de nombre de mitzvot. Ibeinyan Shinui Maut Atochen et la Mispar Machia. Parce que comme c'était un changement qualitatif, le nombre de mitzvot n'y fait rien. Il ne change rien. Et si on veut dire qu'on veut s'occuper de cette différence de nombre de mitzvot, alors on va trouver un enseignement de Chazal qui nous dit Lecha Hashem atiferet zu matan Torah. C'est une drasha de Chazal qui dit que quand on dit la splendeur est à toi, Hashem, ça fait référence à Matan Torah. On voit bien que le chidouche, en général, de ce qui s'est passé à Matan Torah, donc là, c'est un chidouche au niveau de la avoda qui a changé avec Matan Torah. Ce changement-là s'appelle Tiferet, c'est-à-dire splendeur. Donc, il faut l'entendre comme ça. Il fait référence à ce qu'il avait déjà enseigné à d'autres reprises, que quand les Chachamim m'ont dit, ça vous vous souvenez probablement, les Chachamim m'ont expliqué que les 26 occurrences du fameux Ki Le'olam Chasdo dans le Tehilim, ce Tehillim-là, on l'appelle Hallel HaGadol. Le grand Hallel, il y a 26 fois, qui est Le'olam Chasdo, car sa bonté est éternelle. On a expliqué que ces 26 occurrences, en fait, ça correspond aux 26 générations que Hachem a créé avant de nous donner la Torah. Il y a 10 générations de Adam à Noah, 10 de Noah à Abraham et 6 jusqu'à Moshe. Et ce qui est dit dans ce Hallel, c'est que toutes ces générations, Akadosh Baruch Hu les a nourries par sa grâce, sa bonté, et sans qu'ils aient de mitzvot vraiment à faire. La kavana, c'est que, évidemment, on n'est pas en train de dire qu'à Matan Torah, la générosité, le chesed d'Hachem est moindre que celui qu'il a manifesté pendant les 26 générations qui précèdent, où il a nourri le monde sans contrepartie, si on peut parler comme ça, et qu'après, Matan Torah, il nourrit le monde en fonction de notre collaboration, de notre travail. Alors, c'est pas vrai qu'on est en train de dire que la grâce, la générosité d'Hachem était plus grande avant Matan Torah que après Matan Torah. C'est évidemment pas quelque chose qu'on peut dire. La kavana ici veut dire que le chesed d'avant Matan Torah, ce sont des choses qu'on a déjà dites, mais bon. Ça s'appelle chesed vitour. C'est un chesed où Hachem est mevater, c'est-à-dire il demande rien. Il laisse le vitour, c'est-à-dire laisser passer. Il laisse passer. Et même si les gens, et même si il y a eu des générations entières d'idolâtrie effrénée, littéralement, ça n'a pas empêché Hachem de continuer de manifester son chesed à toutes ces générations. Donc ça s'appelle chesed vitour. C'est-à-dire, on peut imaginer une situation où Reuven va nourrir Shimon, et il y a deux manières de le nourrir. Tu peux donner à Shimon tous les jours de quoi vivre, Ou tu peux, c'est quelque chose qui a ensuite été repris dans un certain petit livre rouge. Ou tu peux lui apprendre à pêcher, tu peux lui apprendre un métier. Et à ce moment-là, avec son métier, il va pouvoir gagner sa vie et ne plus être quotidiennement dépendant de toi. Dépendant de Romain qui le nourrit. Si on regarde superficiellement, on pourrait penser que la première façon de faire, c'est-à-dire de lui apporter tous les jours ce dont il a besoin, est plus généreuse que celle qui va consiste à lui, oh, tu lui installes, je sais pas, un magasin avec lequel il va pouvoir gagner sa vie. Mais dans la pnimiut de la chose, celui qui lui permet de gagner sa vie, c'est un chesed beaucoup plus profond que celui qui lui donne tous les jours. Et donc c'était ça le chesed des 26 générations avant Matan Torah, c'est que d'une certaine manière, pendant toutes ces générations, les mondes étaient, enfin, le monde, les mondes étaient nourris sans qu'ils fassent quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est ça le chesed vitour. Hachem a été mevater sur leur travail. À partir de Matan Torah, le chesed devient plus profond, infiniment plus profond, et à ce moment-là, les mondes sont nourris sous forme de salaire pour leur travail. Le chesed de la deuxième manière s'appelle chesed mishpat. C'est-à-dire que la midata chesed, ici, elle crée une source de revenus en quelque sorte. Elle permet à ce que les choses se passe selon le mishpat, selon la justice, selon. Donc, il s'agit, évidemment, il s'agit ici, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, un approfondissement du chesed. Pourquoi? Parce que le chesed dont ont bénéficié les 26 générations, ce fameux chesed vitour, chacune des générations a bénéficié d'un vitour qui lui est propre. C'est pour ça qu'il y a pour chaque génération un hein, qui le olam chasdo. À partir de Matan Torah, le chesed, qui est chesed mishpat, c'est le mishpat, c'est une loi générale. C'est un chesed qui englobe la totalité des générations. Toutes les générations bénéficient du même chesed. C'est-à-dire que le chesed qu'ils reçoivent, que les générations reçoivent, ça unifie, puisqu'elles ont le même chesed. Ça unifie les générations. Et donc, on n'a plus besoin de dire qui est l'Olam Hasdo spécifiquement pour chaque génération. Bon, ça, c'est un sujet qu'il a déjà traité. Il a des chapitres qui s'appelle Kuntra Sar Chesed. C'est un cahier consacré au problème de Chesed. Alors, le fait que, à partir de Matan Torah, les mondes sont nourris et ils survivent, en fait, Bederech Mishpat. C'est-à-dire parce que le monde a été créé pour le Kavod d'Hachem, oui. Et le Kavod d'Hachem qu'il y a sur ce monde, c'est le Kavod qu'on exprime en disant chez Hakol bara l'Esbodo. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour sa gloire, pour son kavod. C'est le kavod qui vient. Alors comment est-ce qu'Hachem reçoit en quelque sorte, si on peut parler comme ça, du kavod? C'est la avoda d'Ebné Israël, la avoda des hommes, leur travail en Torah et en mitzvot. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment le kavod? Parce que le vrai kavod, en kavod est la Torah. C'est-à-dire que l'acceptation de la Torah, vous vous souvenez, on a dit que l'acceptation de la Torah, c'était la condition pour que le monde continue. Vous vous souvenez, on avait dit Yom HaShishi. Il fait référence au Shishi Ben Sivan, le Shishi Sivan, qui est le jour du don de la Torah. Hachem a dit au monde, quand il l'a créé, je crée le monde, mais il est en suspens et il ne sera définitivement établi que si les Bnei Israël acceptent la Torah, le Shishi Sivan. Acceptent la Torah. Et c'est en cela que le kavod, puisque le monde a été créé pour le kavod, alors le kavod est là parce que comment? Ben parce qu'ils ont accepté parce que les Bnei Israël ont accepté la Torah, et donc ils ont permis à ce monde d'exister, ils ont permis à Kadosh Baruch Hu de réussir son plan, si bon parler, qui était de créer un monde, pour son kavod. Donc, comme ça, on arrive au chidouche du contenu de Matan Torah. C'est le problème de la avoda, du service d'Hachem. Afalpi shekol kfifa shel avdut, she'anivra kofef et komato lifnei boro. Bien que, en fait, chaque fois que la créature s'incline devant son créateur en accomplissant les mitzvot qu'il lui a ordonné de faire, c'est-à-dire en le faisant, ben c'est une façon de reconnaître le créateur comme son maître. Donc c'est ça le kavod shamayim en fait. Et mitzadze behemet kol avodatam shel tzadikei hadorot shelifnei Matan Torah hayta avoda shel ribui kvod shamayim. De ce point de vue, on peut dire que même dans les 26 générations, il y avait des tzadikim. Dans les 26 générations, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, il y a Shem, il y a Noach. Donc ces gens-là, quand ils ont fait la volonté d'Hachem, bien sûr qu'ils ont donné du kavod à Hachem. Mais ce kavod-là ne permettait pas, n'était pas suffisant pour que le monde dure. Parce que le tnaï avec le monde, c'était l'acceptation de la Torah. Comme il n'y a pas eu acceptation de la Torah, il y a eu on peut dire, une espèce de kavod local, temporaire, mais insuffisant pour emporter l'affaire. Donc, il était encore nécessaire d'avoir à chaque fois du chesed, parce que leur kavod n'était pas suffisant. Donc, il fallait qu'Hachem fasse œuvre de chesed, parce que quelque part, le monde ne méritait pas de tenir à cause de cette tzadikim-là. Tout était en suspens jusqu'à ce 6 Sivan, c'est-à-dire matin de Torah. Alors c'est clair que à partir de ce moment-là, quand David Hameler dit « Hashamayim mesaprim kvodkel » que les cieux racontent la gloire, la vote d'Hachem, c'est bien sûr que c'est à partir de ce moment-là. Mais depuis le moment de Matan Torah, ils racontent autrement le Kavod d'Hachem. Ils ont toujours raconté le Kavod d'Hachem. Mais ils le racontent différemment. Jusqu'à Matan Torah, ils racontaient en quelque sorte, la chose en disant, ben voilà, c'est un état de fait. Voilà. En disant, ma sécheya, kafaya. C'est-à-dire, les choses se passaient comme ça, voilà. Après Matan Torah, le récit en question, il est la condition de vie du ciel. Le ciel raconte parce que c'est leur fonction de raconter. C'est-à-dire que si tu enlèves au ciel sa fonction de raconter la gloire, ils disparaissent. Ils disparaissent, pardon. Les cieux disparaissent. Bon, on va encore ajouter quelque chose. Ajouter quelque chose qui a à voir avec la structure, avec la richesse du Lashon HaKodesh. Le mot le mot, enfin, disons, ou la notion de beauté et la notion de Tiferet, de splendeur, dans toutes les langues, ces mots-là, beauté, splendeur, ont des racines linguistiques, ont des racines différentes. En Lashon HaKodesh, la racine Be'er, donc est la racine de Tiferet, elle est commune en quelque sorte aux deux sujets de beauté et de splendeur, parce que la beauté, ce n'est pas une qualité, si vous voulez, du sujet. C'est pas dans l'essence du sujet lui-même, mais plutôt, ça représente la trace que le sujet laisse sur l'autre, d'un sujet sur un autre sujet. La beauté, le yofi, c'est en fait quelque chose qui est de l'ordre de trouver grâce aux yeux de l'autre. C'est-à-dire, toutes les maalot, toutes les qualités, elles sont toujours du type pour soi. Alors que la beauté, c'est un par rapport à l'autre. Et c'est ça le point commun, en quelque sorte, la rencontre entre Yofi et Tiferet, entre la beauté et la splendeur dans le Lashon HaKodesh. Tout le sujet Tiferet, c'est d'éveiller chez l'autre une impression. Faut créer, il faut impressionner l'autre avec ça. Et ça, ce type d'impression, on ne peut pas l'obtenir avec une qualité intrinsèque de la main à elle-même. C'est seulement la beauté de la qualité elle-même qui impressionne. C'est-à-dire sa capacité d'être appréciée, trouver grâce, en fait, aux yeux de l'autre. Parce que même si quelqu'un avait toutes les qualités. Si ces qualités ne sont pas appréciées par quelqu'un, alors il n'y aura pas de côté splendeur. Donc ça veut dire que la racine PR, elle a un double sens qui est à la fois beauté et splendeur. Et c'est ça que nos maîtres nous ont enseigné quand ils ont dit ce que je vous ai cité. On a dit à Hachem, qu'il Hachem, qu'il le fera Hachem à Tiferet. Elle est à toi, Hachem, la Tiferet, la splendeur. On a dit, qu'est-ce que c'est, Zou Matan Torah? Ça veut dire ici que Tiferet, c'est Matan Torah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis sur un chidouche de Torah, je vais dire que c'est guéonique, c'est génial. Ça ne veut pas dire que le Hidouche, il a été dit pour qu'on apprécie sa génialité. Mais quand je dis que ce Hidouche-là, si je dis que le chidouche il a été dit pour apprécier, pour faire apprécier la génialité de celui qui l'a produit, ce chidouche, alors ça veut dire que ce chidouche-là, il est de l'ordre du Tiferet. Et étant donné que jusqu'à Matan Torah, ce que les cieux racontaient, ils racontaient bien sûr la gloire d'Hachem, mais c'était, comme on a dit, c'est la constatation d'un état de fait. C'est-à-dire, on regarde le ciel, c'est impressionnant la perfection, de l'organisation du ciel, en fait. Comment toutes ces galaxies, toute cette richesse, etc. Mais ça ne dévoile pas du tout encore, dans ce sipour, dans ce récit-là, ça ne dit rien de comment se fait-il que ça existe? Qu'est-ce qui fait exister cette perfection du ciel? Donc ça veut dire le ciel n'existait que par un chesed vitour. C'est-à-dire que le récit n'était que le fait qu'ils sont là. On n'a pas encore du tout dévoilé le secret de leur kiyoum, de leur existence. Donc, il n'y a pas de tiferet encore. Il n'y a pas de tiferet dans ce récit du ciel, enfin, de ce que le ciel nous enseigne, de cette perfection qu'on voit. Après Matan Torah, où s'est dévoilé que ce récit de la gloire divine, hein, que raconte le ciel, c'est une condition, une des conditions dont j'ai dit Maaseh Bereshit, et le Kvod Shamayim à ce moment-là, c'est le sujet. C'est le pourquoi, pourquoi ça raconte, parce que c'est grâce à ce récit que le monde survit, en fait. Donc on a passé de Chesed Vitour à Chesed Mishpat, c'est-à-dire, là on voit, à Kol Bara Lichvodo, à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour sa gloire. Et le seul vrai kavod, c'est la Torah. Et donc, avec le kavod qu'il y a eu grâce à la Kabbalat Torah, le monde tient, il vit sur le Mishpat. C'est maintenant conforme à la justice, à la loi. C'est à ce moment-là, on s'aperçoit du côté Tiferet de toute la création. Le Ha Hashem Tiferet, c'est Matan Torah, et Israël, Asher Ba'avodat Toratam. Et les Bnei Israël, en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot, ils sont matzmichim, d'accord, ils font pousser, ils produisent ce kavod. Et c'est pour ça qu'Hachem, dans le Navi, s'est dit Israël, Asher Becha et Paer, dit Hachem. Israël, par toi, c'est un verbe, comment on peut dire, je resplendis, si on peut parler comme ça. Grâce à toi, je resplendis. Il faut comprendre que toute cette notion de kavod, vient du fait que il y a, et on le ressent, ce qu'on appelle chilukei madregot hanimtsaot ba'olam. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie dans le monde. Il y a des niveaux plus élevés les uns que les autres, des niveaux moins élevés les uns que les autres. Le niveau le plus bas, doit en quelque sorte lever les yeux pour voir ce qu'il y a au-dessus de lui. Ce geste de lever les yeux pour voir, etc. Ça s'appelle kavod. Lever les yeux pour voir, c'est-à-dire donner du kavod, puisque. Et donc, la source de toutes ces différents niveaux dans le monde, bien entendu, ça correspond à des niveaux différents d'existence et de production des mondes. Ces mondes qui ont été émanés, créés, formés, faits avec les fameuses 10 paroles de Maaseh Bereshit, où chacune des paroles en question correspond à un certain niveau bien précis. Le niveau, par exemple, de Yehi Or, donc la parole de la Torah, où Hachem dit Yehi Or, que la lumière soit, ça n'est pas le même niveau que la parole qui dit Tatché que la terre produise du gazon. On dit que Istakel Beorat Taubara Quand Jboku, il a regardé le monde, il a regardé la Torah et créé le monde, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cieux, la terre, tout ce qu'ils contiennent, ont été créés avec une multitude de paroles. Et c'est ce qui crée le fait que nous ressentons des niveaux différents dans les créatures. Les créatures, nous, ce que nous ressentons bien dans la hiérarchie, en fait, ça vient justement du fait qu'il y avait plusieurs paroles. Alors, Paranitra dit, d'après moi, c'est ça le pshat du Maharal. Quand il dit qu'il y a une différence entre le rachat, le mauvais, dans un monde qui était créé par une seule parole, et un rachat dans un monde qui a été créé avec 10 paroles, il a comparé ça à un voleur de 1 ou un voleur de 1 dinar ou de la couronne du roi. Parce que bien sûr que dans le monde créé avec une seule, dans un monde qui aurait été créé avec une seule parole, on peut bien sûr transgresser la volonté d'Hachem. Néanmoins, il n'y a pas là de révolte contre la gloire de la royauté. Il n'y a pas de mal, parce qu'en fait, dans un monde où il n'y a eu qu'une seule parole créatrice, il n'y a pas de notion de kavod. Parce que justement, il n'y a pas de niveau où tu dois lever les yeux pour voir autre chose. Shimata notel mina olam ilu kamadrigot, parce que si tu enlèves la multiplicité des niveaux, donc leur hiérarchie dans le monde, Alors, tu enlèves nécessairement toute l'idée de chachivout, d'importance. Donc, il n'y a pas de problème de kabbalah. Si on ne ressent pas la chachivout, il ne peut pas y avoir d'importance et il ne peut pas y avoir de kabbalah. D'après le Maharal, c'est ça que dit bien nous dire la Mishnah, c'est que ce fameux monde créé avec 10 paroles, il a été créé avec 10 paroles pour sanctionner les Réchaïm qui détruisent le monde, en fait, détruisent ce fameux monde créé avec 10 paroles, c'est-à-dire, puisque le monde, justement, dépend du Kavod, il a été créé pour cela. Chakol bara lichvodo. Donc c'est seulement dans un monde avec 10 paroles qu'on peut avoir cette notion de Kavod. Donc le rachat, qui en fait a volé la couronne du roi, donc il lui a enlevé. Il a enlevé au roi son kavod, en fait. Donc il a bien perdu le monde, puisque le monde dépend de ce kavod. Alors que s'il avait vécu ce rachat dans un monde créé par une seule parole, il aurait été comme quelqu'un qui a volé un dinar, qui n'a pas volé la couronne du roi. Donc de tout ce qu'on a vu là dans cette partie, on apprend que le contenu intérieur de ce niveau, Mamad Har Sinaï, de ce moment extraordinaire où on était au Sinaï, où en même temps que la Torah elle-même, on a entendu les fameuses 10 paroles, c'est-à-dire, on nous a donné aussi le kavod de la Torah, avec le kavod qu'il y a eu, avec le son et lumière qu'il y avait, hein, la lumière de la montagne dans ce fog-là, etc. De même que la volonté d'Hachem s'est dévoilé ici, quand il a dit Anochi, etc. La gloire divine, elle s'est dévoilée lorsque on a vu les Raou et Hakolot, on a vu les bruits, les voix. Et de même que quand on dit qu'on a vu ce qui s'entend normalement et entendu ce qui se voit, tout ça c'est au moment de Matan Torah, ça s'est manifesté. Pour toutes les générations, le sujet Kavod est lié avec la Torah. Il y a donc une espèce de feu qui les lie comme la flamme est attachée à son support. En kavod et la Torah. El ha'Hashem atiferet, c'est Matan Torah. Alors maintenant, la suite du verset, c'est de dire que, vous vous souvenez, le premier chapitre qu'on avait vu la dernière fois, il parlait justement déjà de ce verset, où Hachem dit, Rak ishamer lecha. Fais bien attention. Shmor nafshecha me'od. Garde ton âme. Ben tishkach, de peur que tu viennes à oublier et t'advarim asher ra'u enecha, les choses que tes yeux ont vues. Ben yasu min levavcha kol yimei, de peur que pendant toute ta vie, ces choses-là s'oublient. Alors, dans ce verset, la suite, c'est le ba'avu tiyeh yirato al pnechem. Hachem, il s'est manifesté pour que sa crainte soit sur vos visages. Et la dracha, elle est, c'est quoi la crainte sur le visage? Zou a boucha. C'est la honte. C'est-à-dire, cette crainte d'Hachem, elle se traduit sur nos visages par la boucha. Ça veut dire, dans le niveau qui s'appelle Yirat Shamayim, la crainte du ciel, façon générale, il y a un niveau pratique, un niveau spécifique plutôt, de crainte du ciel, qui se manifeste sur le visage. Et dans le langage des Rahamim, ça s'appelle Boucha. Ça s'appelle la honte. C'est peut-être pas obligatoirement la honte telle que nous on l'entend. En tout cas, c'est comme ça que les familles rappellent cette situation. Boucha. C'est la honte, mais pas. Pas la honte de quelqu'un qui a mal fait, mais plutôt la honte, plutôt une forme d'extrême timidité. On se sent mal à l'aise parce que c'est trop grand. C'est pas une honte parce qu'on a mal fait. Pas du tout. C'est la prise de conscience, disons, de la hauteur divine. Alors, pour continuer toujours avec ce Papa d'Israël, pour comprendre le contenu de ce niveau, c'est quoi exactement, de quoi on parle ici? Alors, il faut commencer par parler de Amalbim Pnei Chavero Verabim Ki'ilu Shofech Damim. Hazal disent que celui qui fait blêmir son prochain en public, c'est comme s'il versait du sang. Tosfot, c'est Rabbeinu Yonah, disent que c'est vraiment à Israël de Shfichut Damim. Ils le lisent quasiment littéralement, que c'est la banlieue du meurtre. Dire que c'est pas le meurtre directement, mais c'est pas loin. Et donc, si on le prend comme ça, alors vous savez bien que le Shfichut Damim, le meurtre, C'est une des trois avérotes pour lesquelles la famille enseigné, la Torah nous a enseigné qu'il valait mieux se laisser tuer que de les transgresser. Donc si on dit que faire blêmir, c'est à Israël, c'est-à-dire c'est quasiment je fais faute d'amim mamach, alors normalement on devrait plutôt se laisser tuer que de faire blêmir le prochain. Et dans la Gemara, on voit que la preuve de cela, que faire blêmir, c'est une forme de shfichut damim, c'est parce qu'on voit que clairement sur le visage, il a blêmi, c'est-à-dire la trace du sang, quoi, a disparu. Donc, on entend quelque chose d'assez extraordinaire dans ce que dit ici Chazal, qu'il y a donc une différence entre le blanc de la honte et le blanc de la douleur. En cas de douleur, on peut aussi blêmir. Et bien entendu, personne n'a pensé que si on fait souffrir quelqu'un physiquement et qu'il en blêmit, on va assimiler ça à Shefirut Damim. Alors que si on fait blêmir en lui faisant honte en public, là, on l'assimile. Ah, je fais quoi d'amis? Donc, on est bien obligé de dire que bien que extérieurement, dans les deux cas, il s'agit de devenir ultra pâle. Donc, les causes sont différentes, elles produisent le même effet. Néanmoins, il y a une énorme différence qui est due justement à la raison pour laquelle il y a ce phénomène de visage qui blêmit. Et donc cette énorme différence, il va essayer de dire ce qu'elle est. Et en Lashon HaKodesh, il y a deux façons de parler de perdre la vie. Il y a Hariga et Retsicha. Deux termes. Le hariga, c'est un terme qui est plus employé, surtout employé pour la perte de vie d'un balhaï, d'un animal. Et Retsicha, ça s'utilise pour les hommes. Ça, c'est clair. Mais en vérité, il y a encore un troisième mot, qui est justement ce mot qu'on a utilisé, qui s'appelle Shfirut Damim. Littéralement, ça veut dire versement du sang. A priori, Shfirut Damim, ça devrait pouvoir s'appliquer tant au monde animal qu'à aux humains. Parce que dans les deux cas, il s'agit de Netilat Nechama ou Netilat Nefashot. Néanmoins, on sait bien que c'est pas comme ça. Shfichut Damim, le sang versé en question, c'est toujours du sang humain qu'on parle. Et donc, il faudrait comprendre pourquoi. Finalement, le sang animal, c'est aussi du sang. Et la Torah, elle parle bien du nefesh qui est dans le sang, ou le sang qui est Adam ou un nefesh ou Adam. C'est dans le sang que se trouve le nefesh. Et donc, si je verse ce sang-là, le nefesh s'en va, donc. Il y a la mort, donc on devrait pouvoir l'utiliser aussi dans le monde, quand on parle du monde animal. Alors, c'est ça, on va commencer par essayer de voir d'où vient cette distinction. Alors, comme très souvent, on parle du Maharal. Le Maharal fait remarquer que bien que on utilise couramment l'expression Shfichut Damim pour le meurtre humain, d'un humain, mais il y a beaucoup de façons de tuer quelqu'un sans verser son sang. Bien le tuer sans verser une goutte de sang. Alors pourquoi est-ce que le meurtre est appelé Shfichut Damim, même quand quelqu'un a été, je ne sais pas, étranglé, où il n'y a pas eu de sang, disons, qui a coulé, on parle Shfichut Damim. Alors le Maharal explique que quand on parle de Shfichut Damim, c'est de séparer l'âme du corps, en fait, le nefesh du corps. Et c'est l'expression qui est utilisée, que je vous ai citée, qui est utilisée dans la Torah, quand on dit Ki Adam hu ha-nefesh. Le sang, c'est le nefesh. Nous ne connaissons pas, nous, le lien qu'il y a entre nefesh et le corps, entre le nefesh, l'âme et le corps. Mais le langage de la Torah, c'est Adam ou un nefesh. Le sang, c'est le nefesh. Or, le sang, il appartient au corps. Donc, il est en commun dans le nefesh, au nefesh et au corps. Machma que, effectivement, le lien, il a à voir avec le sang. Et donc, quand on dit Shfichut Damim, ça veut dire que on enlève le lien qu'il y a entre le nefesh et le corps. Et à ce moment-là, le Maharal dit, il ramène la Gemara, la fameuse Gemara qui dit que au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash par Titus, Titus a enfoncé son épée dans le Parochet. Dans le Beth Amikdash, il y avait une partie qui s'appelait Kodesh et une autre qui s'appelle Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est cette partie du Beth HaMikdash dans laquelle il y avait le Aaron HaKodesh, et dans laquelle le Kohen Gadol entrait une fois par an à Kippour. Et vous vous souvenez que dans le Moussaf de Yom Kippour, on raconte la avoda du Kohen Gadol. Il y a toute une partie où on raconte les aspersions que faisait le Kohen Gadol. On les compte, achat, achat, ve achat, achat, ushtaim, etc. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il aspergeait avec il y avait le sang qu'il avait recueilli. Et il aspergeait en direction, l'envoyait du sang, en direction du parochet. Donc avec le temps, le parochet, qui était assez épais, il était plein de sang, vraiment complètement coagulé, etc. Il y avait plein de sang. Et quand il a planté son épée dans le parochet, il y a du sang qui s'est écoulé. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que puisque la doucha du parochet, du rideau en question, a été profanée, alors on utilise l'expression le sang a coulé. Justement parce que on a cassé, on a brisé le lien entre la matière et la forme, entre ce que représentait le rideau et la matière rideau. Et ça s'appelle Shfichut Damim parce que on a rompu le lien. Et du coup, les meurtres, même si ils ne se traduisent pas par un écoulement effectif du sang, mais avec cette nouvelle définition de Shfichut Damim, celle que on vient de donner, donc on vient de donner au nom du Maharal, on comprend pourquoi on utilise cette expression de Shfichut Damim. On va dire c'est la Shfira. Et donc, peut-être, il faudrait remplacer Shvira par la Shvira, la brisure du lien entre le spirituel et le matériel. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas cette expression pour le monde animal, parce que dans l'animal, c'est de la matière. Il n'y a pas, chez l'animal, il n'y a pas de spiritualité, si vous voulez. Donc, il n'y a rien d'autre que le corps. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une brisure entre le corps et l'âme. Le mot hariga, qu'on utilise dans le monde, quand on parle du monde animal, c'est la destruction de la vie, en fait, de la manifestation de la vie. Destruction littéralement. Alors que Shfichut Damim, c'est la brisure du lien entre la vie, si vous voulez, et le corps. C'est parce que l'homme, il est Tselem Elohim, que maintenant, il a ces deux qualités, en fait, que son corps est habité aussi par son âme. Donc, quand on lui enlève un Neshama, on peut parler de Shfichut Damim. Quelqu'un qui a fait remarquer qu'en réalité, le mot shfichut damim, il existe aussi dans le monde animal. Quand on parle de la shrita de Kodashim en dehors de l'enceinte du Beth Amikdash, on dit que celui qui aura fait la shrita d'un korban en dehors de l'enceinte, c'est-à-dire là où on n'avait plus le droit de faire cette shrita. Alors, dans le passage, c'est marqué Dam Yechashev Laishaou, Dam Shafar. On considérera que c'est du sang qu'il a versé, ce bonhomme. Donc, on utilise Shfichut Damim, Dam Shafar. Or, c'est bien sûr du sang animal. Mais justement, c'est bien qu'on parle ici de la shrita d'un animal, et que, en tant que tel, il n'y a pas de shfichut damim, mais puisqu'il s'agissait de kodashim, puisqu'il s'agissait de korbanot, et que par la shrita en dehors du lieu où on devait la faire, on a justement profané la kedusha de ces kodashim. Alors il y a bien une séparation de la forme et de la matière, si vous voulez. Et donc, pour ça, on peut parler de Dam Yechashev Laishaou Dam Shafar. Donc ça marche très bien. C'est vrai que ça a été utilisé dans le monde animal, mais seulement pour des kodashim, dans lesquels on a rompu le lien entre ce que représente le fait que c'était les Kodachim et que c'était en même temps des animaux. De là, on voit que on va peut-être arriver, de cette manière-là, à faire la différence entre les deux façons de faire blêmir, par douleur ou par bisayon, par honte. C'est-à-dire, la rupture du lien, elle peut avoir lieu de deux manières. Ou bien parce que on affaiblit le lien lui-même, il est complètement distendu, en fait, ou que on détruit un des côtés de la structure de lien qu'on a, qui existait. À ce moment-là, il n'y a plus de lien. Parce qu'il n'y a plus deux choses à lier entre elles. Donc maintenant, on peut expliquer comme ça. Que ce soit par douleur ou par honte, le sang s'en va et il reste, ou bien vient de la blancheur. Alors, cette pâleur, elle vient de ce qu'il y avait beaucoup moins de sang. Et donc, il y a une manifestation d'un amoindrissement de la vie, en quelque sorte. Mais ce miout de riout de la vie, il est différent dans les deux cas. Dans un sujet qui s'appelle Tsar Baalechaim, faire souffrir les animaux, il y a un sujet qui s'appelle Kvod HaBriot, l'honneur, si on peut parler comme ça, des créatures. Mais il n'y a pas un sujet qui s'appelle Kvod Baalechaim. C'est Kvod HaBriot, des créatures. Ça, c'est englobant. Mais pas spécifiquement le Kavod des Baalechaim. Et donc, Quand on dit qu'il y a un affaiblissement, un amoindrissement du chiout de la vie, de la manifestation de la vie par la douleur, c'est une diminution du nefesh animal en quelque sorte. Parce que ça existe aussi dans le monde animal. Par contre, quand il s'agit de bisayon, qui est le fait de détruire un des côtés, y avait deux choses qui étaient liées l'une à l'autre, et maintenant il y a un des côtés qui est détruit, complètement affaibli, c'est-à-dire, ça veut dire que on a complètement affaibli le lien entre chiout de la neshama de l'homme et son corps. Le bisayon, il touche à, non pas à l'âme animale, en quelque sorte, mais ça touche au Tselem Elohim. On voit bien que, quand par exemple la Torah interdit, je précise, il y a une peine de mort qui s'appelle Skila, on traduit par lapidation, mais c'est pas une simple lapidation, mais je ne vais pas entrer dans ça. Après la Skila, on pend le cadavre une seconde, et puis ensuite on le dépend tout de suite, on le redescend tout de suite, parce que c'est marqué Ilat Elohim Taloui. Parce que l'homme est à l'image d'Elohim, c'est Elohim, alors c'est comme si on maudissait Elohim quand on a pendu un être humain qui est c'est Elohim. C'est pour ça qu'on doit le pendre pour la signification de la Skila, mais on ne peut pas le laisser. Rashi traduit Zilzulo Shelmelech. C'est un bisayon pour ça fait honte au roi, puisque l'homme a le dmout diukno chez la mère du roi. Alors, Chazal appelle ça Khalishat Adat. Ça veut dire on se sent mal, quoi. Le date est affaibli. Parce que le date, discernement, le date, Enaela Chibour. Date, c'est un lien, c'est le lien, par exemple. Quand on dit Adam, Yada et Chava Ishto, ça veut dire qu'il y a eu un lien entre eux. D'un autre côté, la Khalishat Adat, elle veut dire affaiblissement du lien, du nœud, en fait. Le Tselem Elohim n'est plus là avec toute sa force. Puisque on enlève la neshama d'un homme, de toutes les manières, on appelle ça Shefout Damim, parce que justement, on sépare, comme on l'a déjà dit 10 fois, la forme de la matière. Cette raison, en ce qui concerne le blêmissement qui existe, qui a pour cause le bisayon, la honte, celui-là, il vient. Parce qu'il y a une diminution du chiout de la vie, parce qu'on a enlevé le tselem Elohim. Alors on dit, effectivement, même on va dire là-dessus, Mani Katle Kule, Mani Katle Palga. Et donc un Malbim, c'est comme s'il était chauffeur d'Amim, c'est-à-dire quelle est la différence si on l'a tué un peu ou on l'a tué complètement. L'opération qui consiste justement diminuer jusqu'à, bon, diminuer le Tselem Elohim. Alors, si on le diminue, tout ou partie, c'est déjà c'est insupportable, si on peut parler comme ça. Et c'est pour ça que c'est assimilé à un Tilat Neshama, assimilé à un Shfichut Damim. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un Malbim, celui qui est Malbim en tant que Bizayon, c'est comme s'il était Shofer Damim. Voilà, on va s'arrêter là, c'est toujours pas fini.